Bienvenue dans La Colle. Vous êtes curieux? Vous avez soif de comprendre le monde qui vous entoure? Alors, vous êtes au bon endroit. Si comme moi, vous pensez qu'on n'a jamais fini d'apprendre, La Colle est faite pour vous. Sans se prendre au sérieux, je vous propose à chaque épisode de partir ensemble à la découverte de nouveaux horizons, d'idées et de profils inspirants. Je suis Pierre Barraud, j'ai créé, édité, produit ce podcast. Je suis également directeur général du campus Orléans de l'ISC Paris, école de management, membre de la conférence des grandes écoles. Mon mantra, vis comme si tu devais mourir demain, apprends comme si tu devais vivre toujours. Je suis preneur de tous vos commentaires, suggestions, remarques. Ils sont tous les bienvenus. Pour me contacter, pierre@lacolle.fr. Et si vous aimez La Colle, partagez-la avec tous vos amis. Diffusons le savoir. Allez, c'est parti. Bonne écoute. Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Colle. Aujourd'hui, un sujet qui est passionnant parce que il est quelque part un peu nouveau, même si on va dire nouveau, c'est 20-30 ans. Mais on va parler de digital entertainment, de jeux vidéo, de e-sport et j'en passe et des meilleurs avec Robin Buisson. Salut Robin.
Salut.
Alors, Robin, il est... j'adore parce que il se moque de moi à chaque fois que je le dis, mais il est CEO d'un studio de jeux vidéo. Bon, vous êtes pas nombreux, on est d'accord.
Non, on n'est pas nombreux.
Mais t'es quand même CEO, t'es quand même PDG, voilà.
Je suis quand même PDG, c'est vrai.
Voilà, ça claque. Et donc, PDG de Guild Studio, qui est un studio de jeux vidéo, et on va parler de cette industrie un petit peu. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est toute ton histoire à toi. Et puis, bah, on en a parlé hier au café. C'est le fait que tu sois écrivain aussi. Et ça, c'est pour moi, c'est finalement ta lettre de noblesse. Je suis désolé pour tout le reste. Mais moi, je trouve ça super, super impressionnant toujours les gens qui arrivent à écrire vraiment et à finaliser quelque chose. Alors, Robin, en quelques mots, est-ce que tu veux bien te présenter?
Oui, alors donc je m'appelle Robin Buisson, je suis donc le CEO de Guild Studio.
Trop classe.
Voilà. Donc Guild Studio, un studio de création de jeux vidéo. Voilà, je suis aussi écrivain, j'ai écrit 3 romans à l'heure actuelle et une bande dessinée qui était sortie en 2013.
D'accord.
Oui, c'était le petit plus, c'est le petit plus. Hein.
Ah ouais, c'est la surprise du jour, ouais. La surprise du chef.
Toujours dans l'univers des jeux vidéo, puisque c'était adapté d'une licence, d'une licence qui était assez connue à l'époque, qui s'appelait Lost Planet.
D'accord. Voilà. Ok.
Voilà. Donc.
Parce que pour moi, dans mon esprit, t'étais surtout un codeur fou. Alors on va rembobiner un petit peu. Robin à 18 ans, il est qui, il est quoi, il fait quoi?
Alors après, si tu veux rembobiner même sur l'aspect écriture, ouais. J'ai commencé à écrire quand j'étais petit. Hein. J'ai commencé à écrire des petites choses déjà quand j'étais petit. J'avais toujours en visu du littéraire. Et en fait, à 18 ans, j'étais au lycée, voilà, ouais. Etc. Et j'ai pas voulu aller dans un domaine littéraire, voilà. En fait, je voyais l'informatique comme et le développement comme deux choses. La première, c'était une facilité au niveau pécuniaire, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que c'était un métier d'avenir, c'était une façon d'avoir de gagner un bon salaire et voilà. En fait, je le savais parce que mon père travaillait à l'époque pour en informatique pour une grosse boîte du coin voilà. Ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir mes premiers PC, de pouvoir jouer à mes premiers jeux sur disquette.
T'as baigné dedans alors.
Ouais, bah en fait ses collègues lui ramenaient des jeux sur disquette, voilà, qui nous ramenaient à la maison, qu'on jouait sur un vieux Windows 3.11, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai joué à Prince of Persia, qui était un de mes premiers jeux, des Blues Brothers, des Death Kent, des comment ça s'appelle. Hérétique, enfin voilà.
Je sais que moi j'ai joué à la version 1 de Prince of Persia.
Ouais, bah voilà, tu vois, on s'entend ça, alors.
Et c'était hyper marquant parce qu'en termes d'animation et de fluidité de l'animation, c'était ça cassait tout.
Il faut savoir qu'en plus c'est son toutes les animations en fait ont été réalisées. Alors si je dis pas de bêtises, par le frère du en fait c'est le concepteur a demander à son frère, alors qui je crois était cascadeur, de réaliser justement toutes les animations, etc., de les faire pour qu'après lui il puisse les retranscrire derrière, dans le jeu.
Okay.
Enfin bref, passons.
C'est des bons souvenirs, ça, tu vois, et c'est des trucs marquants, hein, c'est vrai.
Et donc la deuxième chose pour le développement, en fait, c'est le côté créatif. C'est-à-dire que moi j'ai toujours eu un besoin viscéral de créer.
Ouais.
Voilà. Et en fait, pour moi, le développement, c'était une façon de créer. On produit quelque chose qui in fine, ça produit quelque chose à l'écran, il se passe quelque chose. Alors c'est pas forcément tangible en termes de physique. C'est pas un objet qu'on peut saisir dans la main, mais c'est quelque chose qu'on peut voir, quelque chose avec lequel on peut interagir. Mmh. Et moi ça me plaisait énormément. Donc j'ai fait une licence technique de communication avec du développement web principalement.
D'accord.
Voilà.
Okay.
J'ai commencé en tant qu'indé. En fait, j'ai fait un petit CDD de 6 mois et après je me suis lancé directement en tant qu'indé, webmaster indé pendant 4-5 ans. Voilà,
ouais.
Je travaillais principalement pour des boîtes de graphistes qui n'avaient pas de développeurs à poste.
Mmh.
Voilà, c'était un peu mon...
Et c'était galère ou tu gagnais bien ta vie?
Je gagnais un salaire correct, je vais pas me plaindre. Ouais. Voilà, okay. Ça m'a permis de pouvoir acheter une maison, tout ça. Enfin voilà.
Oh, mais tranquille.
Enfin, là j'ai des maisons, de pouvoir faire après. Hein. Qu'on s'entende. Hein.
Ouais, j'ai bien compris.
Là je n'ai pas acheté Ruby sur ongle. Mais voilà, donc
excuse-moi, c'est juste une question comme ça, en aparté, parce que tu étais indépendant.
Oui.
Quand on va voir une banque et qu'on est indépendant, il dit quoi le banquier?
On dit on a de la chance de tomber sur le bon ou pas.
Ah, ouais.
C'est-à-dire que quand nous on est allé faire notre prêt à la banque, on est allé demander à faire un prêt à la banque, on a eu la chance de tomber sur une conseillère qui avait vécu la même situation que nous, c'est-à-dire que ma femme avait un salaire correct mais pas mirobolant. Moi j'avais à l'époque j'avais un an de chiffre d'affaires plus 6 mois qui suivaient derrière, donc pas forcément beaucoup de recul pour les banquiers.
Mmh.
Et en fait ils s'étaient retrouvés dans la même situation, elle et son mari, et donc
elle était compatissante.
Voilà, exactement. Donc elle nous a permis d'avoir notre prêt. Et ce qui est assez fou, c'est que elle est partie de l'agence peut-être 2 mois après nous avoir fait signer les papiers, etc.
Ouais.
Et le conseiller qui nous a repris derrière, quand il a repris le dossier, nous a dit vous avez de la chance parce que je sais pas si moi je vous l'aurais accordé. Donc comme quoi, c'est quand
les planètes s'étaient alignées.
C'est ça. Après, quand on est indé, ça dépend. Hein. Maintenant, quand on est indé, moi j'ai des potes qui bossent en indépendant, en informatique, sur Orléans pour des boîtes parisiennes, par exemple.
Ouais.
Bon, au vu des salaires parisiens en tant qu'indépendant, il y a pas de débat. Les banquiers sont pas
obtus.
Non, pas du tout.
Pas toujours, en tout cas.
Pas du tout. Donc voilà, j'ai fait mes 4-5 ans comme ça.
Ouais.
Au bout d'un moment, j'en ai eu marre de chercher mes clients, de devoir tout gérer, etc. en tant qu'indé. Donc je suis rentré dans le joyeux monde des SS2I ou des ESN.
Ouais.
Voilà, où par contre, j'ai fait mes armes sur plein de choses différentes, hein, puisque clairement, on te vend à des...
c'est de la boucherie, hein, monsieur. On vend du people.
On te vend à des clients pour lequel tu n'as pas les compétences, mais c'est pas grave. t'apprends sur le tas. Donc ça m'a permis d'apprendre pas mal de langages différents, etc.
Ouais.
Et puis Parallèlement à ça, en fait, j'écrivais ma trilogie. Donc, pour l'instant, il y a deux tomes qui sont sortis de la Guilde des Marchands de Pluie. Donc,
la Guilde des Marchands de Pluie. Ouais, non, il faut parce que comme ça, tout le monde l'entend bien, etc. Okay.
Donc, j'ai écrit mes romans en parallèle de mon taf, voilà, sur mon temps libre, etc.
Tu ne peux nous parler de la Guilde des Marchands de Pluie?
Ouais.
Disclaimer, moi, je suis un fan de fantasy, etc., etc. Enfin, on en a déjà parlé tous les deux. C'est des trucs que j'adore lire. Ne serait-ce quand tu m'as pitché les romans, je fais « Ah, tiens, ça, j'aimerais bien lire. »
Bah, merci, déjà, pour commencer. Faut juste imaginer un instant. On est dans un univers, fait désert. On n'a pas vu d'eau depuis des semaines. Les cultures autour de nous, elles dépérissent. Les nôtres, ils sont en train de mourir de soif. Et puis d'un seul
sachant
coup,
qu'on enregistre un jour de canicule.
C'est ça. Et puis d'un seul coup, il y a un navire volant qui fend le ciel, qui s'arrête au-dessus de vous. Les matelots remontent des barils frappés d'une rune en forme de nuage. Les mages se mettent à incanter et un immense cumulonimbus apparaît au-dessus de vous. Et une pluie diluvienne s'abat. Voilà, vous êtes sur Aridia, le monde de la Guilde des Marchands de Pluie. Donc dans ce monde, l'eau, c'est la denrée la plus chère qui existe. C'est plus important que les rubis, c'est plus important que l'or, que n'importe quoi d'autre. Et donc dans ce monde, la Guilde des Marchands de Pluie dirige donc une entreprise commerciale totalement hégémonique sur le commerce de l'eau. Donc c'est-à-dire qu'elle a une flotte de navires qu'elle envoie aux quatre coins du monde pour capturer les nuages qui se trouvent dans les zones nuageuses.
Ouais.
Et après, les enferme dans des tonneaux et va les revendre aux différents royaumes pour qu'ils puissent faire de l'agriculture ou abreuver leur population. Et le pitch du tome 1, c'est que il y a un empire, donc l'empire de l'Est, qui crée des tours capables de générer des nuages et qui se lance dans une guerre de conquête du continent.
C'est une histoire de business, en fait.
Complètement. Complètement. Et là, donc, la guilde qui est menacée de se faire prendre son monopole commercial, se retrouve à rentrer en guerre contre l'Empire pour éviter de se faire prendre son monopole, justement.
Tu te souviens de la genèse de cette idée ou pas? De cet univers?
Oui, c'est un truc assez clair dans ma tête, tout simplement parce qu'en fait, c'est un film qui s'appelle Stardust. Ouais. Qui était sorti dans les années 2000 avec plus une sacrée distribution voilà, il y avait Claire Danes, Charlie Cox, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, c'est un univers fantasy et en fait dedans De Niro joue un capitaine de navire volant dont le travail, c'est de capturer des éclairs. Voilà. D'accord. Et en fait, ça a été la petite graine. Quand j'ai vu ce film, en fait, juste ce truc-là, c'est implanté dans ma tête. Ouais. Et en fait, j'ai commencé à imaginer un monde, à partir de choses dont je me suis inspiré, de Mad Max, tout ça. Alors à l'époque, j'avais pas lu Dune. On m'a souvent fait la comparaison avec Dune, mais j'avais jamais lu Dune. Je l'ai lu récemment après avoir vu le film, en fait.
D'accord.
Voilà. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cet univers et derrière j'ai lu les Annales de la Compagnie Noire de Glenn Cook.
D'accord.
Qui est en gros mon livre de chevet qui m'a énormément inspiré, surtout qui a inspiré mon style d'écriture.
D'accord.
Voilà, parce que dans les Annales de la Compagnie Noire, on suit en fait le journal de la compagnie qui est écrit par un des mercenaires. Et en fait, je suis parti de ce principe-là pour la Guilde des Marchands de Pluie, c'est-à-dire que dans le livre, on suit les journaux personnels des différents protagonistes qu'on va suivre dans l'histoire. Donc ça nous donne différents points de vue, des choses qui se passent à différents endroits dans le monde. C'est aussi entrecoupé d'extraits de manuels d'histoire, de géographie, ce genre de choses en fait, qui permettent de donner du contexte et des informations sur le monde dans lequel l'histoire évolue.
OK.
Voilà.
Comment on fait entre ce moment où il y a l'idée qui commence à germer et le point final d'un premier volume.
D'une sortie, ouais. Ça, c'est assez... En fait, je pense qu'on... Enfin, moi, je suis pas parti du principe que j'allais à tout prix, j'allais à tout prix sortir cette histoire, etc. Mmh. En fait, c'est plus l'histoire qui s'est imposée à moi. C'est-à-dire que j'ai commencé à réfléchir à, voilà, à mon histoire, etc. On en a parlé hier. Je me suis fait, j'ai imaginé le monde.
Ouais.
Et après, à partir du moment où j'ai imaginé le monde, je me suis placé à un moment T de l'histoire. Je me suis dit voilà qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Après moi je suis un fan par exemple de stratégie militaire, de l'époque napoléonienne, etc. C'est pas pour rien que l'antagoniste principal est un empereur. Enfin voilà, il y a tout ce côté-là. J'aime bien les choses qui sont nuancées, c'est-à-dire que quand j'ai écrit l'histoire, on se place souvent du côté de la guilde, de l'alliance qui se forme contre l'empire, etc.
Ouais.
Mais c'est pas du tout manichéen, c'est-à-dire que si on réfléchit un petit peu au propos, voilà, la guilde est totalement hégémonique sur son commerce de l'eau. Elle veut pas se faire prendre son monopole. Est-ce que finalement, si une technologie apparaît qui permet d'amener de l'eau en abondance pour tout le monde dans un monde où justement c'est le
il y en a pas.
Voilà. Est-ce que finalement c'est pas quelque chose qui serait bien? Donc voilà. J'ai commencé à bâtir mon histoire petit à petit, et puis à un moment, au fur et à mesure de commencer à bâtir mon histoire et de l'écrire, bah je me suis dit quand même il y a quelque chose.
Ouais.
Et puis quand même mes personnages, j'y tiens.
Ils ont un peu de profondeur.
Voilà, ils ont quelque chose. Et puis voilà. Et puis en fait, en lisant aussi plein d'autres romans, tout ça, on se dit bon bah voilà, peut-être que je peux aller au bout et puis tenter de l'envoyer aux éditeurs, ça ne coûte rien en fait, excepté de se préparer à se prendre quelques baffes. Voilà, parce qu'on s'en prend, hein, ouais. faut être honnête, hein, on s'en prend énormément. Voilà, mais après donner le je saurais pas te dire à quel moment exactement je me suis dit ça va sortir.
À quel moment tu t'es dit je suis romancier?
J'ai encore du mal à me le dire. J'ai encore du mal à me le dire parce que est-ce que à partir
tu fais pas que ça en fait.
Ouais, et puis non, mais même au-delà de ça, c'est un problème de on a toujours tendance à se dévaloriser et un problème de légitimité en fait. À partir du moment où on n'est pas reconnu et connu on a du mal à se dire bon bah voilà, je suis véritablement romancier. Là maintenant ça vient, tu vois, c'est comme quand tu me dis t'es CEO. j'ai encore un peu de mal, mais bon, ça vient. Donc maintenant je me dis bah oui, effectivement, je crois que quand j'ai commencé à me le dire, c'est quand j'ai dû remplir la fiche pour l'école de ma fille, où il fallait donner son travail.
Et alors?
Et en fait, je me suis dit, j'écris développeur, j'écris écrivain. Et puis en fait, je me suis dit, j'écris écrivain. Voilà.
Trop bien.
Trop bien. Je me suis dit, allez, c'est classe.
Ouais, c'est classe, carrément.
C'est classe et c'est pas faux, donc voilà.
Ah ouais, non, carrément. Ce travail-là sur l'écriture, je l'ai dit, je crois que je dois avoir, allez, une dizaine de débuts de romans plus ou moins longs. Entre une page et 20-30 pages, justement, comment on arrive à vraiment enclencher et à finir? J'ai un vrai problème avec ça.
J'ai été confronté au problème quand j'étais en train d'écrire notamment le tome 2.
Ouais.
Où en fait, une fois que j'avais clôturé le tome 1, il y avait comme un sentiment d'accomplissement.
Oui.
Et donc, par conséquent, d'envie de continuer l'histoire, mais à la fois on est toujours bouillonnant d'idées. Ce que je disais hier, c'est très facile de commencer, très difficile de terminer quelque chose. Et voilà. Et j'ai commencé à écrire d'autres choses. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'ai des débuts de romans aussi. Voilà, j'ai un autre roman qui fait 50 pages que j'ai hâte de pouvoir continuer.
Ouais.
Et en fait, c'est une forme de
d'astreinte?
Ouais, pas d'astre. Enfin, une de discipline en fait.
Ouais.
C'est une discipline. C'est-à-dire que il faut partir du principe que à partir du moment où tu vas commencer à travailler sur une autre histoire, un autre univers, tu vas perdre un peu le fil forcément de la précédente.
Mmh.
L'avantage c'est que moi là pour le jeu, je travaille sur le même univers, donc on va dire que je reste dans le... je baigne dedans, je reste dans le domaine, etc. Donc ça va. Mais quand tu changes d'histoire, tu perds un peu le fil de tes personnages, etc. Donc en fait, la qualité de ton écrit va forcément en pâtir. Enfin, en tout cas, à mon sens.
Ok.
Voilà. Je pense qu'on peut écrire différentes choses en même temps, mais voilà, il faut aller au bout de quelque chose, parce qu'en fait, en plus, en termes de satisfaction, voilà, même si ça ne sort jamais, même si voilà, avoir quelque chose de terminé, pouvoir clôturer une histoire, même si c'est extrêmement difficile, et j'ai le cas actuellement sur l'écriture du tome 3 là, puisque c'est une trilogie, arriver à clôturer quelque chose, voilà, c'est dur, mais par contre, le sentiment qu'on éprouve une fois que on a écrit le mot fin. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez grisant.
Ouais, je veux bien croire. Et donc toi, tu l'as envoyé à des éditeurs alors après.
Ouais, j'ai envoyé à des éditeurs. Je me suis pris plein de cartouches.
Ouais, normal.
Voilà, j'ai pris plein de cartouches.
Ils te font un feedback circonstancié ou juste non merci monsieur.
En gros, ne rentre pas dans notre ligne éditoriale.
Ouais.
Voilà. Et donc, en gros, tu te débrouilles avec ça. c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à le faire, à se trouver des bêta lecteurs.
Ouais.
Voilà, qui lisent ton écrit, alors, faut sortir. On peut commencer par le cercle,
familial.
Le cercle proche, parce que voilà, ça, on va dire que ça fait qu'on a les retours, mais un peu plus gentils.
Ouais.
Voilà. Mais par contre, après, il faut aller chercher du lecteur. Soit on est sûr que la personne, elle prendra pas de pincettes, et puis voilà. Soit on va chercher carrément des lecteurs qui sont vraiment en dehors de tout cercle, qu'on connaît. Pour se confronter un petit peu à la voilà un vrai
dure réalité,
vrai avis. Après, faut être conscient aussi que des premiers écrits, forcément, ça peut pas être parfait, ça peut pas être machin, etc. Moi, j'ai énormément appris des retours qu'on m'a fait sur le tome 1, justement.
D'accord.
Je m'en suis beaucoup servi, en fait. Je voulais pas m'enfermer dans mon truc et puis me dire.
C'est moi qui ai raison.
Voilà. Je me suis dit non, il faut une vraie remise en question du travail pour pouvoir s'améliorer. Et en fait, j'ai vraiment pris les retours, essayer de travailler dessus énormément pour faire un tome 2 de meilleure facture. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé a priori, puisque tous les retours que j'ai eu après du tome 2, justement, c'était que j'avais clairement passé un cap au niveau écriture.
D'accord. Et alors, on peut le citer, ton éditeur, c'est qui?
C'est les éditions Amalté.
Amalté. Donc, merci les éditions Amalté.
Oui, merci les éditions Amalté.
Ils ont eu le nez creux. Justement, l'éditeur, il demande de retravailler ton truc ou
Non, en l'occurrence, eux, ils m'avaient pas demandé de retravailler l'écrit. Mmh. Après, on avait en fait, eux, ils travaillent en tout cas pour ma part, ils travaillaient avec une sorte de contrat de. En fait, tu devais garantir un minimum de précommande.
D'accord.
Voilà, pour que eux, ça leur évite le risque au tout départ.
Oui, d'accord.
De produire un certain nombre d'exemplaires.
Ok.
Voilà, donc c'était un peu moins de 100 précommandes, un truc comme ça, pour qu'eux puissent derrière. En fait, c'était pour s'assurer que le coût d'impression des premières centaines d'exemplaires était couvert. Voilà, et puis il y a eu de la correction, voilà, on avait un correcteur c'est impressionnant parce que c'est vrai que quand ça repasse entre les mains d'un correcteur, il y a des choses que toi tu t'aperçois que tu ne vois plus, en fait. T'as tellement l'habitude de lire ton texte, voilà, et tu ne les vois plus du tout.
Alors, donc ça y est, t'es devenu Enfin, t'es en, à ce moment-là, t'es en passe de devenir écrivain. Tu deviens écrivain, en tout cas au début. Voilà. T'es toujours freelance.
2015, non, je le suis.
Tu vois, non, je le suis plus. À quel moment, en fait, tu te dis, tiens, finalement, j'ai de la matière là et je vais en faire quelque chose, parce que bah le fin mot de l'histoire, c'est que cette matière là que tu as produite. Alors, apparemment, tu la déclines sur d'autres supports et surtout, tu vas en faire un jeu vidéo.
Ouais. Alors, en fait, c'est l'autre facette, c'est que j'ai toujours adoré les jeux vidéo, ouais. Et j'ai toujours eu envie de créer des jeux vidéo. Pas forcément en tant que développeur, plutôt en tant que narrative designer, scénariste, etc.
D'accord.
Voilà. En fait, je savais que j'avais les compétences techniques.
Ouais.
Voilà. Et en fait, tout s'est goupillé un petit peu quand sont sortis les moteurs de jeu un petit peu plus user friendly. Mm-hmm. Voilà, qui étaient un peu moins compliqués que certains. Voilà, dans lequel on pouvait se mettre assez facilement. Et puis en fait, quand le livre est sorti, donc en 2015, le premier tome, ouais. Je me suis dit, bon, j'ai les compétences techniques, j'ai un univers,
ouais.
J'aimerais bien, en fait, moi je le visualise beaucoup et plein de gens m'ont dit mais c'est super, faudra en faire forcément on se met à rêver, hein, on se dit faudra en faire une série, faudra en faire un film, très génial, l'univers il s'y prêterait trop bien et tout ça, et en fait je me suis dit bon bah oui ok, mais sauf que ce genre de choses ça c'est quand même assez compliqué à mettre en place,
ouais.
Et puis je me suis dit mais en fait j'ai des compétences techniques qui me permettraient de faire un jeu, et puis j'ai un univers, et puis potentiellement j'ai une histoire à raconter,
mmh.
Et puis bah j'ai des potes graphistes,
mmh.
Donc mis tout ça bout à bout, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un petit truc? Et puis on a commencé à travailler sur une sorte de petit truc, un petit bout de projet, ouais. Comme ça sur un coin de table, voilà, commencer à imaginer un peu le truc. Moi j'ai commencé à travailler sur une histoire, puisque le personnage qu'on commande dans le jeu est un personnage qu'on retrouve dans les romans.
Bien sûr, il faut, voilà, que ce soit cohérent cette
affaire. Donc j'avais envie de raconter l'histoire de ce personnage là, mmh. à un autre moment de sa vie. Et puis en fait voilà, ça a commencé comme ça. Ça a commencé sur on se dit on fait un truc pour se faire plaisir, sympa.
Techniquement, ça marche comment un moteur de jeu ?
C'est tout un tas de fonctionnalités qui sont pré-programmées comme ça va être le cas sur un Photoshop ou autre,
ouais,
enfin voilà. Et puis derrière en fait, c'est juste que tu as toute une gestion de la physique, etc. Voilà, des ce qu'on appelle des colliders, c'est-à-dire des éléments qui vont pouvoir rentrer physiquement en collision,
oui.
Qui vont te permettre aussi de pouvoir détecter certaines choses, etc. Donc, faut savoir que le développeur en termes de jeux vidéo, justement, c'est un peu la pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est lui qui regroupe tous les éléments de l'équipe créative.
D'accord.
C'est-à-dire, ouais, que c'est lui à la fin qui va assembler le tout,
mmh.
Et qui va faire qu'on va pouvoir avoir une interaction avec.
D'accord.
Via un script. Mmh. Donc t'as toujours une partie, t'as une partie vraiment code pur.
Mmh.
T'es pas seulement un pisseur de code. Faut le savoir. Faut quand même avoir une certaine appétence pour un peu de level design, un peu de graphisme, etc. Tu vas aller placer les éléments, tu vas lancer telle animation, etc. En fonction de la touche qui a été appuyée. Enfin, t'as tout plein de choses à gérer comme ça. Après, dans le moteur, t'as plein de choses. T'as toute une gestion de la lumière, par exemple.
Oui.
T'as toute la gestion de la lumière, tout le sound design aussi, qui est ultra important. Mine de rien, parce que sans les sons, sans tout ça, il y a beaucoup moins
ça peut être un peu plat, ouais.
Voilà, il y a beaucoup moins de vie. Donc voilà,
et
ça regroupe un peu
tout ça. Et toi, t'as choisi quel moteur alors?
Unity.
Unity. D'accord.
Ouais.
Ok.
On est parti là-dessus parce que bon voilà, on cherchait un moteur à ce moment-là et puis je le trouvais plus simple pour avoir testé que l'Unreal. Donc on est parti là-dessus et puis on a commencé à travailler. Il y a des gens qui sont venus sur le projet comme ça, qui sont repartis. Ouais. Voilà et puis avec donc avec Arnaud et Romain, donc qui sont les deux associés avec lesquels j'ai monté le studio. Eux sont restés à la barre. Romain nous avait rejoint un peu plus tard, mais Arnaud c'est celui avec lequel je bosse le plus. Je l'appelle mon frère d'imaginaire. Mmh. Parce que c'est celui...
C'est mignon, ça fait un peu Miss France, mais c'est mignon.
Oui, mais en fait c'est parce que c'est celui qui retranscrit le mieux sur le papier ce que j'ai dans la tête.
Ah,
voilà.
Oui, c'est un exercice difficile en effet.
Tout à fait. Donc voilà, on a bossé pendant quelques années sur notre proto.
Ouais.
Voilà. Et puis
tout ça sur fond propre.
Là c'était même pas sur fond. Enfin,
vous
n'aviez
même pas créé la société encore.
Non, là on n'avait pas créé la société.
C'est juste un projet ensemble.
Voilà, on bossait à nos heures perdues sur le projet tranquillement. Voilà. Et puis en fait à un moment on est arrivé à un stade où en fait on s'est dit bon. En fait, on a un truc cool, on a un truc qui fonctionne, on a un truc voilà. Mais si on veut le faire passer à la vitesse supérieure, bah il faudrait qu'on puisse se mettre à temps plein dessus.
OK.
Et donc on s'est posé la question en gros, soit on le laisse en l'état et puis ça ne deviendra jamais rien.
Ouais.
Soit on y va et puis voilà, donc on a choisi la deuxième option, on y allait. On a monté le studio en mars 2021 et puis voilà, on est en train de travailler dessus depuis un an et demi à peu près.
Alors c'est quoi le modèle économique comme ça d'un jeu vidéo?
En fait, on a plein des modèles économiques pour un jeu vidéo.
Ouais.
Nous, en l'occurrence, on dit un modèle premium, c'est-à-dire que en gros, tu payes, t'as le jeu.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Tu payes, t'as le jeu. Après, t'as plein de façons de faire, comment tu vas avoir des free to play.
Oui.
Donc voilà, ouais. C'est un free to play et puis derrière en fait tu vas te rémunérer avec les éléments que tu vas vendre dans la boutique du jeu, etc.
Oui.
Voilà. Par exemple,
façon Fortnite par exemple.
Exactement. Après tu as des systèmes d'abonnement comme ça peut être le cas sur WoW, enfin voilà, mm-hmm. ce genre de jeu.
Donc voilà. World of Warcraft.
Tout à fait. World of Warcraft. Et donc,
Vous avez choisi un modèle premium.
Nous, on a choisi un modèle premium, ouais,
d'accord.
Tout à fait.
Pourquoi?
Parce que c'était le modèle.
parce que
c'était le modèle le plus adapté, en fait, à notre type de jeu. C'est-à-dire que nous, c'est une aventure linéaire, voilà.
Ouais.
On suit vraiment, on fait une aventure.
Oui, c'est pas un monde dans lequel t'as, enfin, c'est pas un, comment on appelle ça? Un monde massivement parallèle ou un truc comme ça?
Un MMO.
Un MMO, voilà.
Ouais, c'est pas un monde massivement multiplayer.
Ouais, ok. C'est un jeu, c'est une aventure.
Ouais, c'est un jeu, c'est une aventure, voilà. On fait son aventure, etc. Voilà, donc c'est pour moi, c'est une histoire qu'on raconte dans laquelle le joueur interagit avec son personnage, voilà, peut évoluer, etc. Mais ça reste pour nous le modèle, on vend un produit en fait.
Ouais.
On vend un produit,
ah ouais, je comprends.
On vend un produit tout simplement, comme on vendrait un bouquin ou autre, voilà.
Aujourd'hui, alors, et pour la petite histoire, aujourd'hui, si t'es, parce qu'on enregistre en physique, hein, tous les deux,
ouais.
Si t'es à l'ISC, c'est que, notamment, on fait tester aux étudiants de l'ISC, le jeu.
Ouais.
Ça donne quoi les retours?
Pour l'instant, on a eu une réponse au questionnaire, on attend les autres,
ouais,
là. On a eu trois qui sont passés tester.
Ouais,
quatre, je crois. Écoute, pour l'instant, alors c'est marrant parce que c'était pas forcément le jeu, je pense, auquel ils s'attendaient.
D'accord.
Je pense qu'ils sont venus voir, mais ils savaient pas que c'était un jeu 2D façon un peu Prince of Persia l'ancienne,
ouais,
ou Dead Cells, ce genre de choses. Voilà. Donc non, écoute, les retours sont plutôt bons. Les retours sont plutôt bons, notamment au niveau de la patte, graphique, de
ouais,
l'univers, etc. Parce que c'est vrai qu'on a un style quand même qui est bien.
C'est super important. Dans ta logique, en tout cas, c'est super important.
Bah oui, complètement. Et puis et puis effectivement la patte du directeur artistique donc d'Arnaud était vraiment super importante pour nous, parce qu'en fait on a une passion aussi pour la bande dessinée. Mm-hmm. Et en fait c'est ce qu'on a voulu retranscrire aussi dans le jeu. Vu qu'on faisait de la 2D, on s'est dit bon bah voilà, on a envie d'avoir cet aspect un peu BD, très crayonné, voilà. Mmh. qui est typique en plus de son style. Donc c'est effectivement le style et l'univers ont bien marqué les esprits.
D'accord. C'est avec Arnaud justement que t'as fait une BD aussi.
Non, la BD que j'avais fait en 2013, c'était avec Guillaume Dorisson. Et avec Arnaud, on a un projet de bande dessinée. D'accord. Qu'on a depuis le lycée, quelque chose comme ça.
Ah ouais, vous connaissez depuis le lycée.
Ouais, on se connaît depuis le lycée. En fait, on s'est rencontrés pour ça. On s'est rencontrés parce que lui dessinait, moi j'écrivais des scénarios, et en fait voilà. D'accord. On nous a présenté en mode bah voilà, lui il dessine, lui il écrit des scénarios, vous devriez bien vous entendre.
OK.
Et donc en fait ça fait 15 ans que je crois qu'on bosse sur notre projet. Alors après, il faut voir toutes les moutures qu'il y a eu, le projet BD qu'on a fait. Oui. On est allé présenter des trucs à Angoulême, mais c'était une
trop
honte.
Bien.
Non, mais c'était une honte quand on voit les planches maintenant. Mais on se regarde, on se dit, mais on avait
pas
vraiment
peur de rien.
Ah non, ah bah alors là, clairement, on avait vraiment peur de rien. On est allé à Angoulême présenter les trucs, mais quand je les vois maintenant, je suis voilà. Donc là, je ne sais même pas sur quelle version on est. On a discuté avec un éditeur qui était chaud pour la bande dessinée justement.
Ouais.
Récemment. Qu'un seul truc qui a bloqué, c'est au niveau de la colorisation. Donc voilà, qui D'accord. était fait par quelqu'un d'autre, et donc qui n'a pas plu, qui a fait le blocage à la fin. Donc voilà, faut qu'on retravaille cet aspect-là colo.
D'accord.
Mais sinon voilà, ça fait partie effectivement des
trucs dans le pipe,
des multiples projets.
Alors on l'a dit, d'ailleurs c'est le nom de ta boîte, Guild Studio, c'est un studio.
Oui.
Donc c'est un studio de création.
Tout à fait.
Derrière, c'est pas forcément vous qui aller commercialiser, marketer, etc. Donc potentiellement tu dois aller chercher des partenaires pour assurer cette partie là. Ça c'est facile, pas facile, ça se fait.
Ça se fait, mais c'est pas facile. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, parce que il faut en permanence. On se retrouve en permanence avec le fait de devoir entre guillemets justifier ce qu'on fait.
Oui.
On doit toujours recommencer cette mécanique de dire j'en fais ça, ça peut marcher, c'est intéressant, c'est ceci, c'est cela. Mm-hmm. La démarche pour trouver des partenaires, etc. Elle se fait au travers de plein de choses, de plein d'événements qu'on peut faire. Ça peut se faire en rencontrant des personnes dans les salons, ça peut être sur des interventions qu'on peut faire, ça peut se faire comme ici, en venant une semaine.
On crée les opportunités.
Voilà, on crée les opportunités. En fait, c'est ça. Moi, en tout cas, j'essaye au maximum de pouvoir faire connaître et d'apporter ce qu'on est en train de faire, discuter de mon parcours, de ce que j'ai fait, de ce qu'est la création de d'univers et de monde. Moi, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur, et sur lequel j'aimerais bien d'ailleurs pouvoir pas enseigner, mais en tout cas faire des interventions parfois c'est vraiment sur la création de monde. Mmh. Parce que moi c'est ça qui me passionne vraiment, c'est créer des univers, créer des mondes, etc. ça me transcende entre guillemets.
On parlait de créer aussi des opportunités. Allez. et on s'est rencontrés dans le cadre d'un truc qui s'appelle Pixel Player.
Tout à fait.
Tu peux m'en parler, Pixel Player?
Ouais, alors Pixel Player, c'est une association qui a été montée en fin d'année dernière, qui est là pour regrouper tous les acteurs du jeu vidéo de la région centre.
D'accord.
Donc quand je dis acteurs du jeu vidéo, on va brasser quand même assez large. Ça concerne pas que les studios.
Non, mais dans la région centre, il y a deux pélos et...
Non, il y a pas de pélo et tout ça. En fait, on s'aperçoit finalement, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de choses, tu vois, sur Orléans par exemple, il y a l'association Split Screen qui fait pas mal de choses, ouais. Pour l'organisation d'événements, etc. Il y a pas si longtemps avant le Covid, il y avait le Orléans Game Show qui s'était plutôt bien lancé. Après, on a l'association Tesseract qui fait du Minecraft, etc. Donc nous on est là sur la partie orléanaise.
Il y a Tours aussi qui est hyper actif.
Et voilà. Et donc il y a Tours notamment, donc là où est le siège de Pixel Player, ouais. Où on a pas mal de studios qui se sont montés. Il y a Supercube, il y a Arkham, il y a.
Fais gaffe si t'en oublies, ils vont gueuler.
Ouais, ceux qui font, c'est que j'ai toujours Créart Studio qui font Runner Party là, d'ailleurs, qui vont sortir leur jeu dans pas très très longtemps.
Ouais.
Mais après, quand je dis que ça brasse d'autres choses, c'est que comme on va avoir des choses sur le e-sport,
c'est le divertissement digital de manière générale.
C'est vraiment le divertissement digital de façon générale. La preuve, c'est que un des fondateurs de l'association, qui s'appelle Ferriol Chevalier, par exemple, il a une société qui fabrique des sièges gaming.
Ah oui. Ouais.
Voilà.
C'est tout ce qui tourne autour de cet univers.
Voilà, la dernière.
Digital entertainment.
Le dernier meet-up qui a été fait à Tours, par exemple, il se passait à Battle Kart, qui est une boîte qui propose en fait des courses de karting en réalité augmentée. Donc c'est-à-dire qu'en fait on se retrouve vraiment dans des kartings et on fait un Mario Kart.
C'est trop bien ça.
Et en fait tout est affiché sur
un casque.
Non, en fait tout est affiché sur le sol. En fait, t'as des projections
sur le sol.
Donc tu peux te balancer des trucs, etc. Ça fait ralentir ton kart. Enfin voilà, ça fait différent. Ça te modifie le circuit. Enfin voilà. Donc c'est pour dire que voilà, les gens qui ont une boîte qui fait de la VR par exemple, mm-hmm. qui propose des activités VR. Ça fait pas aussi partie des acteurs qu'on cherche à regrouper. Et le but en fait, c'est de pouvoir faire bouger justement la région,
ouais.
pouvoir centraliser tout ça. Ça veut dire pouvoir accueillir, par exemple, des jeunes créateurs qui veulent monter leur studio.
Imaginons.
Voilà. Et pour pouvoir les orienter sur les différentes aides auxquelles ils peuvent avoir droit, etc. On a monté des partenariats avec la CCI, justement, pour pouvoir les envoyer, pour le côté plus entrepreneuriat.
Création d'entreprise.
Voilà.
Etc.
Parce que faut pas oublier que chaque avoir des projets, c'est beau, mais à un moment, si on veut pouvoir en vivre, ou aller au-delà de la passion et tout ça, il y a une donnée économique qu'il faut prendre en compte en fait. Et voilà. Et c'est pas toujours.
Et la région justement, elle suit là-dessus.
Alors pour l'instant,
je te pose la question, mais j'ai la réponse.
Alors c'est en train de bouger en fait. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait il n'existait rien. C'est-à-dire que nous on est arrivé dans un no man's land quand on a monté le studio.
Ouais.
On savait pas où nous caser. Voilà.
Ouais.
On pouvait bénéficier de choses, mais vraiment qui étaient liées à la création d'entreprises pures, donc notamment l'accompagnement qu'on a de la CCI du Loiret. Mais après, au-delà de ça, on n'avait pas de subvention spécifique.
Vous avez créé le déclic en fait.
Bah en fait, nous on s'est créé, on s'est retrouvé effectivement à taper à toutes les portes sans succès. Et en fait, juste après, Vincent Marty qui est un des autres fondateurs de Pixel Player m'a contacté justement en me disant qu'ils avaient ça comme projet. Donc moi je me suis tout de suite dit
engouffré
dans le truc. Et donc c'est pour ça que maintenant je suis ambassadeur pour le Loiret de Pixel Player. Voilà, pour essayer de faire bouger les choses justement. Et voilà. Et là, donc la région a financé Pixel Player pour nous permettre de développer l'asso.
Ils ont mis un gars dessus aussi, Baptiste Chapuis.
Mm-hmm. Baptiste, voilà. il est à DevUp.
Ouais.
Voilà. Et donc on essaye de faire bouger les lignes. L'idée ce serait de pouvoir créer vraiment un écosystème dans la région centre autour du jeu vidéo et de pouvoir faire bouger les lignes sur des aides, des subventions, ce genre de choses pour aider parce qu'en fait il y a énormément de régions qui le font en France. Mais nous on est dans en fait de Normandie centre une partie de l'Est, en fait on est dans une espèce de diagonale du vide sur lequel il y a vraiment très peu de choses en termes de jeux vidéo.
Okay.
Voilà.
Et donc la région centre pourrait devenir un vrai centre névralgique du digital entertainment en France.
Bah je pense parce qu'on a en fait on a tout ce qui déjà on a du patrimoine, on a de l'histoire.
Ouais.
Voilà, on a on a un terreau économique qui est quand même relativement favorable parce qu'on a pas mal de
dynamique
de,
en tout cas.
Voilà, on est dynamique, pas mal de choses qui se font. On est proche de la région parisienne, etc. Où il y a quand même énormément d'événements qui se passent, tout ça. Mmh. Donc voilà, pour des coûts qui sont un peu moins
élevés.
Ouais. Et puis on a plein d'écoles de dev, etc.
Ouais.
On a une fac de lettres, etc. Enfin voilà, faut pas oublier cet aspect-là. Moi, je parle de ça parce que du coup là, je pense en termes de studio et je parle en termes d'intérêt narratif. Voilà, ça fait partie de ces trucs-là. Donc voilà, je pense qu'on a plein de choses pour développer ce secteur et puis ça fera la venue de d'autres acteurs
créer de la dynamique
voilà ça va créer de la dynamique ça va emmener le tout et puis l'idée c'est de pouvoir faire grandir tout ça voilà de permettre à d'autres studios d'émerger de proposer des jeux de trouver des éditeurs parce que bon
Je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Alors bien évidemment sur Guild Studio, guild-studio.com et Shadow of the Guild. J'adore. Et Pixel Players, etc., etc. Justement là, à cet instant précis où on enregistre, on est en juin 2022. C'est quoi les next steps pour toi, pour le studio?
Alors next step pour le studio à très court terme, c'est le Japan Tour Festival début juillet.
Ouais.
Voilà, d'accord. on va aller présenter le jeu en playtest, etc. Voilà. Et ensuite la grande étape ce sera novembre 2022.
D'accord.
Pour qui est la fenêtre de tir pour la sortie du jeu.
D'accord.
Voilà. Donc
fais gaffe, c'est chaud hein, là tu t'engages hein, c'est enregistré là.
Oui bah tu sais je suis déjà engagé auprès de l'éditeur alors voilà.
Ah s'en fout alors.
c'est plutôt de lui dont j'ai peur que ouais. Voilà. Donc
novembre 2022.
Novembre 2022.
C'est go to market.
Voilà, c'est go to market derrière donc on aura pas mal de maintenance à faire parce que quand on sort un jeu, il y a toujours des choses qui remontent tout ça. Mm-hmm. En parallèle, on travaille sur la deuxième partie. Donc en l'occurrence là, on va sortir le chapitre 1, donc Shadow of the Guild chapitre 1. On va commencer à travailler sur le chapitre 2.
OK.
Voilà, et en parallèle de ça, on est en train de regarder pour monter des dossiers, etc., pour pouvoir commencer à engager le travail sur une autre IP, donc un autre jeu
intellectuel.
Voilà, tout à fait. Ouais. Qui là n'aura pas de lien avec les livres, etc. Là, on s'écarte du sujet, on s'écarte complètement du sujet de l'univers. Voilà.
Alors juste un truc et puis ça peut être important pour ceux qui nous écoutent et qui auraient des idées éventuellement, c'est que et on l'a évoqué comme vous maîtrisez pleinement l'univers, vous maîtrisez le dev, etc., etc. Un partenaire qui pourrait se présenter finalement être présent dans le jeu.
Oui, tout à fait. Alors en fait, ça c'est une des particularités qu'on essaye de proposer.
Ouais.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de proposer un partenariat lambda, on va dire, et puis d'afficher simplement un logo sur le site, même si c'est fait quand même, l'idée c'est de prendre une marque, une personne, parce que ça peut être aussi ça peut aussi être une personne,
ah,
etc.
Oui.
Voilà, tout à fait. Et en fait, on va personnaliser le logo, la charte graphique, etc. du partenaire avec le style du jeu.
Oui.
On va créer.
Non, il faut pas que ça jure trop, quand
voilà.
même.
Voilà. On va créer avec, oui, parce que si on placarde le logo comme ça à l'arrache, ça va être un vrai problème.
Uh-huh.
Mais en gros, on personnalise, donc, on fait une charte graphique vraiment spécifique au jeu. Et en fait, le partenaire va avoir pignon sur rue dans le jeu. Donc c'est-à-dire qu'on va monter on va monter une enseigne en fait dans le jeu, mm-hmm. Mais encore une fois, il sera pas juste là posé et puis tout ça. En fait, on va créer un petit background sur le partenaire, mmh. où on va s'inspirer en fait de son activité dans la vie réelle,
ouais.
pour en faire une activité qui pourrait exister dans le jeu.
Trop bien.
Voilà. Donc ça, avec avec différentes. Donc après, on a toute cette partie là qui est quand même assez sympa, assez original. On a la possibilité
c'est
aussi
génial,
de pouvoir.
Je trouve ça génial.
On a aussi la possibilité de pouvoir tirer le portrait des gens, pareil dans le style du jeu, pour les mettre dans le Hall of Fame du jeu.
C'est un peu mégalo ça, mais ouais.
Ouais, mais bon, voilà, hein, de ouais. faire de faire la statue de la personne aussi, mine de rien, ça a son petit effet.
Ouais.
Ça a son petit effet, c'est toujours sympa. Et puis au niveau partenariat, on va aussi chercher d'autres choses un peu plus classiques, la présence sur les salons,
c'est
plus classique.
Ça veut dire que s'il y a des directeurs marketing ou d'autres d'ailleurs qui ont envie d'avoir une action marketing un petit peu différente, ils peuvent
nous contacter. Ouais. Ouais, complètement. Ah bah en termes d'originalité, je pense que voilà. Les joueurs aiment pas forcément ils croisent par exemple dans un gros RPG en 3D une marque McDo ou Coca qui traîne, ouais. Voilà, etc. C'est toujours un peu compliqué. C'est pour ça que on veut pas placarder en fait une marque comme ça. En fait, on a envie de dire que la marque est vraiment partenaire et en fait on l'intègre dans notre univers. On veut que ça ait un sens en fait. Ouais. On veut du contexte, voilà. Ouais. Moi, en fait, c'est un truc auquel sur lequel je transige pas, c'est du contexte.
Mais c'est intéressant parce que pour justement une direction marketing, ça veut dire qu'eux doivent faire aussi un petit chemin vers vous. Ça c'est une chose, mais ça permet de se poser tout simplement des questions qui est mais finalement on est qui? On est qui? On fait quoi? C'est quoi notre raison d'être, etc., etc. Alors, ça peut être déjà travaillé, mais ça a un vrai intérêt pour moi de se dire tiens dans cet univers là,
qu'est-ce que je pourrais,
qui on ouais. serait et comment on se construirait, c'est quoi les messages qu'on aimerait passer, c'est quoi les personnes et les personnages qui pourraient y avoir autour, et je trouve que pour une équipe marketing pour une boîte, ça peut être un exercice aussi intéressant. Tu vois, on pourrait imaginer. Enfin, c'est là où toi tu peux pousser le curseur aussi, où tu peux. En plus, tu as cette qualité de créateur où tu peux accompagner aussi les autres vers ta création. Et donc les faire, tu vois, j'imagine bien hein, une ouais. journée d'atelier avec toute une équipe d'une boîte en disant voilà l'univers. Et ben maintenant on va réfléchir à qui vous êtes et comment tout ça peut s'intégrer. Je pense que ça peut être un truc super intéressant
ouais,
en termes, tu vois, de team building, même de réflexion marketing.
Ouais, et puis ça permet aussi de pouvoir. Enfin, moi je le vois aussi comme une façon de pouvoir intégrer ces équipes. Tu vois, comme tu parlais de team building, mmh, mais effectivement, un gros brainstorming en disant aux gens, voilà l'univers comme tu
les
disais.
Projettes
voilà,
dans l'univers.
Tu les projettes dans l'univers. Si on vous dit qu'on est t'es une boîte qui fait ça, voilà, comment vous imaginez, etc. Mmh. Voilà, ça peut être super intéressant effectivement.
OK. Novembre 2022. Si je tire le de sortie du jeu.
Oui.
Si je tire le trait dans tes rêves les plus fous en novembre, je sais pas, 2026 tiens.
Mm-hmm.
C'est comment?
Novembre 2026, c'est on aura sorti un, deux.
Tu fais comme Prince of Persia, il y a un film hollywoodien derrière.
Alors ça, j'avoue que j'ai très très envie de sortir deux autres supports qui rajouteraient dans le cross-média l'univers, donc de la bande dessinée,
oui,
et de la série ou du film d'animation.
Ah, film d'animation, d'accord.
Voilà. Après. film comment
hollywoodien
film,
avec
film hollywoodien machin etc.
Je
vote aussi hein, je vote pour aussi hein, c'est clairement
non, je sais pas, l'artiste peut dire c'est non je ne me commets pas monsieur.
Ah non bah là j'y vais parce que moi je enfin il faut juste que j'arrive à négocier une petite vision artistique sur le sur le projet, voilà, c'est tout. Mais sinon, en tout cas, en termes de prévision. Donc pour ce qui est de l'univers, ouais. Effectivement, dans les années qui viennent, j'aimerais bien de l'animation, j'aimerais bien de la bande dessinée.
D'accord.
En termes pour parler du studio à proprement parler, là effectivement, on a un plan à peu près jusqu'à 2026.
D'accord.
Justement. Là pour l'instant, on continuait donc à travailler sur notre chapitre 1, notre chapitre 2 ouais. de Shadow of the Guild. On a un autre projet qui a pour nom de code Cal sur lequel on aimerait justement pouvoir commencer à travailler, mais pour ça, il faut qu'on fasse grandir les équipes. Mm-hmm. Pour avoir suffisamment de surface pour pouvoir développer le projet.
Bah oui.
Derrière, suite à ce projet-là, on aura soit un chapitre 3 pour Shadow of the Guild, si mm-hmm. les deux premiers ont rencontré du succès. Voilà, c'est dans les clous. Et normalement, donc courant 2024, on sera censé recruter une partie de l'équipe pour commencer à bosser sur un projet de RPG en 3D.
Ok.
Voilà. Donc un action RPG en 3D qui ne se placera pas dans l'univers
RPG pour ceux qui connaîtraient pas.
Role playing game.
D'accord.
Donc l'idée c'est de pouvoir voilà commencer à bosser dessus pour une sortie d'un premier jeu qu'on appelle double A en gros.
C'est quoi double A?
Double A en fait quand tu catégorises les jeux tu vas avoir du jeu indé donc petite ouais. équipe jeu indépendant etc voilà tu vas avoir les jeux A et double A qui sont en fait des jeux de plus grande envergure mais qui sont pas au niveau des blockbusters du genre et puis après tu vas avoir les triple A style God of War les FIFA les Call of Duty okay. Ce genre de choses en gros si tu veux le jeu indépendant c'est le cinéma d'art et d'essai français okay. uh-huh. Le triple A c'est les Marvel
D'accord,
voilà pour te donner une échelle de comparaison donc voilà et donc on commencera à bosser dessus et donc ce sera une sortie pour 2026 2027 idéalement pour cet action RPG avec en parallèle toujours des projets de plus petite envergure qui sont développés à côté
side project.
Exactement, voilà, on a plusieurs petits projets notamment mobile aussi sur lequel on aimerait pouvoir se positionner. Oui. Mais encore une fois, on est soumis à la taille de l'équipe.
Là pareil, s'il y a des investisseurs qui ont envie de te donner de l'argent.
Oui.
Ça s'entend ?
Ah oui, ça s'entend complètement, on peut discuter avec grand plaisir.
Quel conseil tu donnerais à un jeune de 15, 16 ans, 17 ans qui aujourd'hui se pose des questions qui est il y a une vraie appétence pour ce monde du divertissement digital, on va l'appeler comme ça. C'est quoi ton conseil? Parce que tu commences à être vieux là, donc tu peux donner des conseils.
J'ai que 35 ans. Qu'est-ce que je peux donner comme conseil? La première des choses, c'est pas parce qu'on est passionné de quelque chose qu'on a envie de travailler dedans.
Mm-hmm.
C'est une nuance qui est importante.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on aime développer, c'est pas parce qu'on aime les jeux vidéo qu'on aimera forcément développer des jeux vidéo.
Ouais.
Voilà. Faut le savoir. C'est une chose qui
c'est
est assez...
C'est pas parce qu'on est un hardcore gamer que on est un bon, je sais pas, sound designer, par exemple.
Voilà, on peut être passionné de cinéma, mais sans pour autant avoir envie de devenir acteur ou de travailler dedans. Voilà, c'est... Donc ça, c'est la première des choses. Après, des projets. Si vous avez des projets, et faut pas hésiter, il faut ne pas les lâcher, il faut travailler, voilà, jamais lâcher, jamais, jamais, jamais lâcher ces, ces projets. Et puis surtout, on se casse la gueule, on se relève, et on repart pour quelque chose, pour autre chose. Mmh. C'est pas grave. On a le droit de se planter, en fait. on a le droit de se planter. Et au contraire, c'est comme ça qu'on acquiert de l'expérience, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, il faut apprendre à se relever, pas rester à terre après un échec. C'est pour moi c'est une valeur fondamentale que j'ai appris notamment avec la pratique des arts martiaux.
Voilà. Des arts martiaux.
Ouais. D'accord. Ouais, ça fait 20 ans. Aïe. Ah, merde. Ça fait 20 ans.
Toi, t'es vieux.
Ouais, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais du Kwan-Kido. Voilà.
D'accord. OK.
Et que je suis prof de Kwan-Kido.
OK. Donc, si on veut prendre des cours aussi, on prend un contact avec toi. Ce qui est intéressant, dans cette approche-là aussi, c'est que, cette industrie, alors, on pourrait se dire qu'elle est toute neuve, c'est un peu le cas, mais finalement, on retrouve aussi les basiques de la gestion de projet, de la création d'entertainment, etc., etc. Ça veut dire que tous les... Est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux métiers sur cette industrie ?
Oui.
Nouveau.
Après, tu vas avoir des nouveaux métiers, notamment dans tout ce qui est partie e-sport et événements digitales, etc. Mmh. Après, t'as des technologies de rupture qui sont apparues, qui font que forcément, alors, je sais pas si on va dire de nouveaux métiers, mais en tout cas de nouvelles pratiques, parce qu'avec la VR, la réalité augmentée, etc. T'as quand même des choses qui sont apparues, qui sont un peu particulières. Après, j'ai envie de te dire que c'est plus un melting pot de tous les métiers qui existaient pour créer quelque chose. En fait, faut se dire que le jeu vidéo, ça regroupe énormément de métiers différents, énormément de sous-métiers différents. Mmh. Et que c'est un peu, enfin moi en tout cas je le vois comme l'expression de une synthèse en fait de beaucoup de formes d'art. Voilà, c'est-à-dire qu'on a le côté littéraire avec tout ce qui est scénario, dialogue, etc. On a le côté réalisation avec la gestion des caméras, etc. Voilà, franchement il y a des jeux qui sont des masterclass en termes de réal,
de mise en scène.
Ah ouais, de mise en scène, c'est absolument bluffant en fait. Et c'est largement à comparer à des films, etc. Comme il y a des scénarios qui sont absolument formidable avec des climax de fou, enfin voilà, il y a le côté programmation, il y a le côté graphisme aussi qui entre énormément en ligne de compte. Et si ça prend autant de temps d'en faire un, c'est justement parce que il y a tous ces éléments à mettre ensemble. Donc voilà, il faut faire cohabiter, comme je disais tout à l'heure, on va avoir un graphiste, on va avoir un sound designer, on va avoir un développeur, on va avoir un level designer, on va avoir un game designer, on va avoir un producteur, quelqu'un qui va gérer le projet dans son ensemble, etc. Et en fait, t'as plein de niveaux comme ça. C'est des équipes qui sont très fournies, en tout cas pour les gros jeux. Enfin voilà, il y a
ok du taf.
Il y a beaucoup de taf. Oui.
Il y a un truc, Robin, que moi j'adore, c'est écouter raconter des histoires juste et pour mon kiff personnel. Est-ce que tu pourrais, comme ça, en quelques secondes, quelques minutes, me raconter l'histoire du héros de Shadow of the Guild?
C'est pas un peu de spoil, ça?
Je sais pas. C'est pour donner envie, en fait.
Dans Shadow of the Guild, on joue Yaran Malak, qui est un ancien assassin de la Guilde des Informateurs. La Guilde des Informateurs, c'est la principale guilde d'espions et d'assassins qui sévit sur Aridia, et qui a des comptoirs un peu partout en fait, et on peut engager, ils sont extrêmement chers. Un jour, lui, il a vu l'opportunité de pouvoir rejoindre la guilde des marchands de pluie et de pouvoir s'affranchir en fait de la guilde des informateurs, et donc d'avoir une vie entre guillemets un peu plus stable. Sauf que quand il a rejoint la guilde des marchands de pluie, en fait, on l'a pris pour ses compétences, donc ses compétences d'assassin. Et donc, il est devenu une ombre de la guilde, d'où le nom Shadow of the Guild. Les ombres de la guilde, c'est la faction au sein de la guilde des marchands de pluie qui est envoyé aux quatre coins du monde pour
faire... C'est le service action de la DGSE.
Exactement. Pour faire respecter la parole de la guilde, pouvoir faire respecter ses contrats, etc. Voilà. Donc ça va de l'espionnage à l'assassinat.
Et c'est avec lui qu'on joue.
Et donc c'est avec lui qu'on joue. Et en fait, le jeu se passe 20 ans avant les événements du premier livre.
Ouais.
Et en fait, 20 ans avant les événements du premier livre, c'est là qu'on a la première information sur... une technologie que créerait l'empereur pour pouvoir générer des nuages. Et donc, le chef de la guilde des marchands de pluie, qui s'appelle Edenil Bourascan, envoie Yaran Malak au sein de l'Empire pour essayer de découvrir ce qu'est cette technologie et potentiellement la détruire.
J'adore. Mais tu vois, ça donne envie. Ça donne envie.
Bah, je suis ravi que ça donne envie.
Puis j'aime cette idée justement d'un monde créé, qui existe. Tu vois, quand tu donnes les noms des personnages, on entend aussi derrière que toi tu as toute la profondeur du personnage. Donc c'est
du contexte.
Voilà, c'est exactement.
Le contexte est important.
On va arriver au bout. Au-delà de tes ouvrages et de tes créations, s'il y avait un livre, toi, que t'avais à recommander, ce serait lequel?
Le problème, c'est que j'en aurais trois. Je crois de faire un top 3.
Ouais, si tu veux. On fait ce qu'on veut.
Les Annales de la Compagnie Noire.
D'accord.
Voilà, de Glenn Cook. Mm-hmm. La Horde des Contrevents.
D'accord.
D'Alain Damasio.
Ok.
Et Gagner la Guerre. De Chodorowski, ouais. Je crois, voilà, qui sont pour moi les trois livres, les Annales de la Compagnie Noire, parce que c'est un bijou de dark fantasy, avec vraiment un univers, une atmosphère, une atmosphère qui est vraiment très 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 très, très particulière. La Horde des Contrevents, parce que c'est parmi les bouquins les mieux écrits que j'ai lus de ces 20 dernières années.
D'accord.
Voilà. Et Gagner la Guerre, parce que le personnage dans Gagner la Guerre transcende littéralement le récit. C'est-à-dire que au-delà même de l'histoire devient presque secondaire. Tout ce qu'on veut, c'est du personnage, parce que c'est un enfoiré de première. Mais par contre, on se prend de passion pour ce perso.
Ok, voilà. Bien vendu là aussi. Moi, je vous recommanderais L'Assassin Royal de Robin Hobb, parce que je suis un fan. Puis alors là, vous pouvez y passer des heures aussi, et des heures à lire ça. Ok, Robin, si on veut te contacter, c'est quoi le plus simple?
Soit passer par le site du studio.
D'accord.
Voilà, petite fiche de contact, etc.
LinkedIn.
LinkedIn aussi, ouais. Vous cherchez Robin Buisson, Guild Studio,
vous
me trouverez. Et puis après, tout ce qui est réseaux sociaux, hein, le Twitter, l'Instagram, etc. Ouais. Voilà, pas de souci. Twitch, oui, on peut faire Twitch aussi. Après, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de live, mais voilà.
Ok. Alors, tu vas pas y couper les 7 dernières questions. Et vous le voyez pas, mais là, il vient de lever les yeux au ciel en se disant, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Alors, allons-y, Robin. Quel est ton mot préféré?
C'est pas facile, hein.
Non. Et puis, je sais pas, t'es écrivain, t'es romancier, tu l'as dit.
comment on formule ça en un mot? Fait de rien lâcher. L'abnégation?
Ouais. L'engagement?
L'abnégation.
Abnégation. Donc, on lâche rien.
On lâche rien.
On se dévoue à sa mission.
Ouais, et puis surtout voilà, comme je disais tout à l'heure, on se crache, ok, c'est pas grave.
On se relève.
On se relève et puis on y retourne.
Le mot que tu détestes?
Lâche.
Donc, à contrario, donc tu aimes le courage.
Oui.
Ça rejoint un peu ce qu'on se disait précédemment sur le fait de se relever aussi. Il y a un vrai courage à se relever. Le son ou le bruit que tu aimes?
La pluie qui tombe sur la tôle.
Ouais, d'accord. Comment sur le sound design justement d'un jeu, il y a des enjeux on l'a dit effectivement, ça donne la substance au jeu. Il y a des trucs toi t'as découvert parce que c'était pas ta spécialité.
Oui, il y a plein de choses que j'ai découvert et que je mériterais encore d'apprendre. Ouais. C'est un des aspects sur lequel dans les prochains mois on va essayer de retravailler justement. On est en lien avec une boîte qui fait du test.
Ouais.
Et donc il y a la facette de test de gameplay pur.
Oui.
Voilà. Et ils ont aussi une batterie de tests orientée sur le sound design justement. D'accord. Donc pour savoir si le son qu'on utilise à tel moment est bien adapté, si il est suffisamment fort ou pas ou ouais. trop fort, enfin voilà, il y a tout un enjeu comme ça pour essayer justement de vraiment donner du corps à ce ouais. qu'on fait, parce que encore une fois si on prend je sais pas le fait de marcher sur une texture
mm-hmm.
alors tu peux avoir le même bruit de pas effectivement sur tout, mais si tu personnalises le son
oui.
en fonction de la texture sur laquelle va marcher le personnage, et ben t'as une immersion supplémentaire.
Ouais, ouais.
Voilà,
complètement.
Et le diable se cache dans les détails.
Oui, puis ça peut faire le succès. Je sais pas si ça peut faire l'insuccès ou l'échec d'un jeu, mais ça peut faire le succès.
C'est un plus.
Ouais. Le son ou le bruit que tu détestes.
Un enfant qui pleure.
Oh chouchou. Ok. Ça c'est le papa qui parle. Ton juron, gros mot ou blasphème favori.
Putain.
Tiens, question, parce que j'ai Jean-Michel, si tu nous écoutes, j'ai des potes qui parlent le Klingon dans ah bah ouais, excuse-moi, j'ai des potes bizarres, je sais.
Ah bah non, c'est pas bizarre.
Il y a une langue, t'as développé des langues particulières ou
Non, il y a pas de langue particulière. D'accord. dans l'univers, tout le monde parle la même langue.
Ok, donc en tout cas sur le juron gros mot, voilà, c'est classique.
Oui.
La citation que tu aurais aimé avoir prononcée, ça peut être une citation d'un de tes personnages. Hein.
Ah, moi j'en ai une que j'avais écrite, je sais pas si quelqu'un l'avait déjà dit auparavant,
ouais.
mais voilà, c'est la vie n'a de sens que lorsqu'on lui en donne.
Ah, c'est joli.
Voilà.
Et c'est de toi ?
Ouais. Bah, je crois. En tout cas, je l'ai jamais lu ailleurs. Moi, je l'ai écrit. Et puis, j'ai écrit l'année, justement, d'écriture, en me disant un jour, peut-être. Mais, c'est quelque chose
La vie n'a de sens que si l'on lui en donne.
Que lorsqu'on lui en, oui, ou que si on lui en donne.
Ok.
Peu importe.
J'aime
mais
bien.
En tout cas, voilà. C'est en gros, ça veut dire que, on peut vivre sa vie, voilà, etc., machin. Mais en fait, pour que ça ait du sens et qu'on apprécie notre vie, pour moi, et ben voilà, on peut s'en créer en fait du sens.
Ouais.
Et ça rejoint le côté projet dont je parlais tout à l'heure. Voilà.
Complètement.
Faut faire des projets.
Tout ça est assez cohérent, monsieur. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort l'entendre te dire ? T'as développé des religions ?
Ouais.
Dans Shadow of the Guild ?
Oui. Ouais. Oui. Il y a des.
Trop fort. J'adore.
Il y a des religions. Après, c'est pas trop marqué niveau religieux, parce qu'en fait l'apparition de la guilde des marchands de pluie, donc il y a 600 ans par rapport au moment où le bouquin se crée,
ouais.
Avec la création de la forteresse volante, etc. Voilà, et le fait que finalement ce qui donnait le plus de désespoir aux populations, c'est-à-dire le manque d'eau. Soit compensé par une création humaine,
ouais.
Voilà, et qui du coup ça prend le pas sur les motifs d'espoir que peuvent porter les religions.
D'accord.
Donc en fait, ça a justement réduit le champ religieux dans l'univers.
Le progrès tue la religion.
Voilà. Et puis au même titre, l'empereur qui règne quand même sur toute la partie est du continent a bien travaillé avec son service de propagande, ainsi que son père avant lui et son grand-père, pour qu'il soit érigé en tant que divinité.
Mmh.
Voilà.
Ooh.
Okay. Donc ça forcément ça a limité. Alors, et qu'est-ce que j'aimerais que Dieu me dise en arrivant là-haut?
Déjà tu pars du principe que tu vas là-haut au paradis.
Ah bah je sais pas, après hein, moi je pense qu'on peut aller là-haut et puis après et on peut redescendre. Hein. Bon après en soi moi je suis vraiment athée donc voilà, c'est un peu compliqué déjà de pouvoir me mettre dans le contexte mais je dirais
bon, Dieu j'aimerais qui bien... va sortir Dieu merci, je suis athée. J'ai adoré cette phrase.
Ouais, bah je sais pas. S'il me renvoie, je voudrais bien qu'il pourrait me dire à la prochaine.
OK. C'est parti. Same player shoot again.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est joli. Ok, allez, je prends. Robin, encore un grand, grand merci du temps que tu nous as consacré.
Merci à toi.
Je mettrai tous les liens de ce dont on a parlé, y compris tes bouquins, les bouquins qu'on a évoqués, dans la description. Et vous l'avez compris, si vous avez envie d'abonder à l'aventure de Guild Studio, eh ben, allez-y, prenez contact avec Robin. Encore merci, Robin.
Merci à toi pour tout ça.
Bye bye.
Au revoir.
Bravo, vous avez tenu jusque-là. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur les réseaux sociaux, allez mettre 5 étoiles et des commentaires sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à notre newsletter. Et dans tous les cas, à très bientôt pour un prochain épisode de La Colle. Et n'oubliez pas, tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais.